point de conversation avec Marie-Claude Ducas sur un incontournable de la vie moderne, dirait-on, la dépression. Bonne écoute.
Allô?
Salut Marie-Claude.
Ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais.
Ben c'est ça, je fais un papier sur le joyeux monde de la dépression, du burn-out. Ben, comme toi aussi, t'es ou t'es peut-être encore là-dedans.
Ouais, puis je m'étais comme avancée à cet égard.
Ouais, c'est ça, parce que c'est aussi une étape assez importante, cette espèce de coming out-là. Là, je l'ai fait, ça ne me dérangeait pas, mais je suis pas sûr. Ben, dans le temps, comme je te dis, les médias sociaux n'existaient pas, fait que j'aurais coming outé dans mon bureau, dans, alors que là, on a un peu plus de voix. Toi, c'est une dépression que tu as fait?
Dans ma vie, j'ai eu des épisodes de, oui, dépression. Quand j'étais très jeune, ils avaient appelé ça anxiété dépressive. Par la suite, j'ai eu des épisodes, tu sais, qu'on pourrait... Tu sais, il y avait en partie dépression, il y avait en partie burn-out, il y avait... c'est un peu comme ce que tu dis pour toi-même. Là. Je pense que ça montre qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a, oui, le profil de la personne, peut-être une prédisposition. Puis, après ça, il y a les circonstances qui peuvent précipiter quelque chose. Puis, tout ça influence la façon dont les gens s'en sortent. La constante, là, c'est une souffrance qui est sans nom, qui apparaît sans issue quand on est dedans. Et puis ça, je m'en rends compte de plus en plus depuis relativement peu de temps. C'est vraiment une souffrance qui se nourrit de l'isolement. C'est le sentiment qu'on est seul avec ça ou à peu près, à se débattre avec ça, puis à sous-performer. Il y a cet isolement-là qu'on vit, puis dont je vois qui heureusement est de plus en plus brisé. Moi, ça a joué un grand rôle. T'sais, moi, la décision, j'ai été capable d'en sortir de cet isolement-là, puis de le dire, je l'avais vécu, parce que j'étais d'une période où je me sentais relativement bien, puis à l'aise avec ça. Parce que quand t'es dedans, tu te sens mal d'être mal, tu te sens seul à sous-performer, et il n'y a pas grand-chose qui est fait dans la vie en général, dans nos milieux de travail, entre autres, mais aussi autrement, pour nous inciter à briser cet isolement-là.
Non, effectivement.
Et c'est... je suis frappée, depuis que je l'ai fait, du nombre de gens qui m'en parlent. Tu sais, quand je l'avais écrit sur la page Facebook « Le visage de la dépression », puis que je m'étais retrouvée à Médium Large à Radio-Canada pour en parler, avec Sophie Lambert, qui avait créé le groupe, j'en reviens pas après ça du nombre de personnes que je rencontrais qui m'ont envoyé des messages privés sur Facebook, avec qui j'ai communiqué, que je crois encore, qui me disaient soit moi aussi ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon conjoint, à ma conjointe, ma fille, mon enfant. C'est incroyable le nombre de petits bon toi, je l'apprends. C'est incroyable le nombre de personnes qui, une fois qu'on le dit, se sentent autorisées à le dire, à dévoiler. Puis, tu sais, des gens qui, par ailleurs, ont des cheminements professionnels impressionnants, je trouve que c'est très, très, très important. Je trouve que briser cet isolement-là, là, c'est plus juste d'une façon théorique, là, c'est vraiment d'une façon personnelle, tangible. Ça fait beaucoup, puis je pense que ça peut encore faire beaucoup. Je trouve que questionner la dépression, oui, ça questionne le fait de le reconnaître chez soi, de chercher de l'aide, de faire ce qu'il faut. Mais c'est que je pense que ça remet à questionner beaucoup la façon dont on vit en général. Puis ça vient à questionner le monde du travail aussi.
Et sa façon de l'aborder aussi, personnelle.
Oui, parce qu'on voit énormément, tu sais, moi, parmi des gens dont j'entends parler, tu sais, il y a beaucoup... ce qui précipite les choses, des fois, c'est de la difficulté à gérer, oui, de la pression professionnelle, mais à gérer peut-être des fois du grand stress, des fois des rigidités sur le plan professionnel, puis aussi à gérer... toutes les pressions qu'on a au niveau de la famille, au niveau des difficultés avec les enfants, des choses comme ça. Et ça concerne encore beaucoup les femmes. Je sais que ça concerne les hommes aussi, ce problème-là, mais il y a vraiment des... il y a des tonalités différentes ou des, disons, des déclencheurs différents selon que tu sois une femme ou un homme. Il y a une façon différente là, les pressions s'opèrent ont des portes d'entrée différentes, si on veut.
Oui, ouais, ça, je l'ai vu beaucoup. Comme je te disais, on est comme quatre présentement autour de cette table virtuelle-là. Mm-hmm. Par contre, quand j'ai fait mon bébé coming out, il y a des gens qui m'ont écrit personnellement là-dessus. Mm-hmm. Ils n'avaient pas forcément le goût de faire une entrevue, mais, ouais, mais un peu comme tu disais, tu sais, genre, allô, je fais partie de ton club, moi aussi. Mm-hmm. Puis il y en avait une, effectivement, elle, c'était sûrement relié aussi au niveau du travail, mais c'est un bébé blues qui s'est transformé en dépression majeure. Du jour au lendemain, à peu près, l'ensemble de sa vie changeait de forme à cause d'un élément déclencheur qui était l'avenue d'un enfant et tout ce qui s'ensuit. Fait qu'effectivement, je pense que les femmes, surtout tu parlais de super formants, mais les super mamans aussi, c'est un facteur qui fait en sorte que rapidement, si tu essaies d'outre-performer au travail, puis tu essaies de faire la même chose à la maison, puis avec ton chum, puis les voisins, puis tout ça, ça en fait de la pression chez la petite madame, là.
Non, tout à fait. Parce que c'est ça, c'est moi, je regarde. J'ai eu un accouchement difficile, puis en plus, c'était des jumeaux. J'avais des jumeaux à gérer. Tu sais, ça fait comme beaucoup avec toutes les pressions, puis bon, je suis revenue trop tôt au travail.
Oui.
Mais j'avais l'impression que j'avais pas le choix. Puis, regarde, c'est comme... C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup de femmes, de plus en plus, et des femmes jeunes, puis relativement jeunes. Là, maintenant, moi, peut-être que c'est biaisé, parce que je me suis adonnée, être en contact beaucoup récemment. Il y a de plus en plus de jeunes femmes entrepreneurs. C'est pas facile. Pourtant, c'est pas facile d'être entrepreneur, hein? Mais c'est plus gérable, c'est plus envisageable. Étant donné tout ça, tu as des gens beaucoup plus ouverts. Puis ce qui est important, c'est pas le fait d'avoir moins en termes de somme de travail, mais c'est en termes d'autonomie, de souplesse, puis d'ouverture pour ce qu'on peut faire.
De gestion du temps.
Mais c'est ça, je te dis, ça se met à questionner beaucoup de choses, c'est dans la façon dont on envisage les priorités, dont on envisage la vie, dont on envisage. Peut-être même la façon de consommer. Mais on voit des choses qui changent. Tu sais, si tu regardes dans des... Je ne suis pas familier avec les bureaux d'avocats, mais si tu te rapportes juste une couple de décennies en arrière, je pense que des congés de maternité puis des façons de composer avec la carrière de gens qui élevaient leur famille, je pense que ça n'entrait pas en ligne de compte. Ça entre maintenant. Puis je suis sûre que c'est la même chose partout. Il y a des progrès qui se font. Mais je pense que c'est ça. Le côté, puis, tu sais, c'est drôle quand tu dis, il y a plein de gens qui m'ont appelé, c'est comme si on faisait partie d'un club. C'est ça, c'est que là, il y a de l'ouverture qui se fait. C'est comme une espèce de club encore un peu secret, là, les déprimés ou les ex-déprimés ou les gens qui ont lutté avec divers problèmes. Puis je pense que plus ça va, plus on se rend compte que c'est presque, c'est peut-être la règle plutôt que l'exception.
Dans mes réflexions, j'essaie de recreuser à cette époque où je me noyais dans moi-même. Puis cette notion de perfection-là et surtout de comment les autres vont me percevoir avec le recul, est-ce que c'était autant qu'est-ce que les autres vont penser de moi versus qu'est-ce que je pense de moi présentement? Si tu n'as plus de recul, tu es à la fois juge et parti. Je me trouvais comme... Hey, je ne l'ai plus. Je ne suis plus efficace. J'essayais de rester tard au bureau, mais je n'étais pas plus efficace. Je faisais juste plus d'heures, mais à un moment donné, la batterie n'était plus là. J'avais des jeunes enfants. Fait que même indirectement, moi aussi, même si je ne suis pas une femme, la vie familiale a fait en sorte que je vivais fast-paced. J'étais jeune et fringant, mais... There's only so many hours you can put in a day, comme diraient les Russes.
Mm.
As-tu l'impression que le fait de finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais dans mon cas, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'était accepter cette fragilité-là.
Oui.
C'était déjà très c'était déjà très positif. Ça a été une des grandes marches que j'ai prises, puis je travaille encore là-dessus aujourd'hui, juste le fait que je suis plus fragile.
Puis mais... même là, moi, je suis rendu, j'aime plus tant que ça le terme fragile. Je pense que j'aime mieux le terme, je sais pas, vulnérable, puis regarde, tout le monde est vulnérable. Puis je me dis, finalement, je suis sans doute, je suis pas plus fragile que la personne qui, en ce moment même, se voit comme super forte, prend tout, fait tout, est plus rigide, puis qu'on sait pas quand est-ce qu'elle va craquer.
Ouais. Moi, ben, j'utilisais la notion pas forcément par comparaison, parce que c'était plutôt par rapport à moi-même.
Oui.
Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais... dans le milieu du travail, c'est sûr que si t'es un go-getter, t'es un perfectionniste, puis je me rappelle plus comment mon psychologue parle de ce perfectionnisme-là, mais c'est absolument pas un bon perfectionnisme. C'était la césure qu'il y avait entre une perception vraiment inconsciente de ce que j'étais, puis un constat sur le coup quasiment d'échec, à savoir, t'es vraiment pas ça, c'est exagéré. Quand je parle d'accepter cette fragilité-là, cette vulnérabilité-là, effectivement, ce qu'elle veut dire à la base, c'est normal, t'es juste un humain, toi aussi.
Oui.
Puis juste de constater ça, ça m'a permis, moi, je trouve, d'être plus vigilant, de changer des trucs dans ma vie. On n'est pas parfait, des fois, on retombe dans le piège facilement, mais parce que cet aspect vulnérable, humain, il y a sûrement d'autres qualificatifs qui sont plus clairs que ça. Ça fait en sorte que, et par rapport à moi, et surtout, je te dirais, et par rapport aux autres, ma vision des autres a totalement changé, puis ça m'a aidé à faire une paix là-dessus aussi. On dirait que...
Non, moi aussi, puis je trouve qu'on a avantage plus de gens à partager notre vulnérabilité. Moi, quand j'étais allée à Médium Large, j'avais dit les gens, en général, auraient beaucoup à apprendre des déprimés parce que, tu sais, on développe plein de trucs, tu sais. Mais après avoir dit ça, à la longue, je me suis rendu compte, je dis inversement, les gens qui se sont battus ou qui se battent avec la dépression auraient beaucoup à apprendre du monde qui n'ont pas ces problèmes-là.
Absolument. On se guérit-tu, d'après toi?
Je sais pas.
Je sais pas, hein?
Je sais pas quoi répondre. Il y a... Peut-être. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Je sais pas quoi répondre parce que il y a pas si longtemps, moi, je disais, oh, je suis guérie de ma dépression.
OK.
Puis là, à un moment donné, j'ai eu des moments de découragement. Je me suis dit, bon, non, regarde, je suis pas guérie, mais regarde, là, je vois que c'est, je fais des choses, je reconstruis plein d'affaires, puis je reconstruis ça différemment. Mais je pense que oui, on peut guérir de la dépression. Une chose super importante, je pense qu'il faut c'est pas avoir peur de souligner, c'est la responsabilité qu'on a dans le fait de s'en sortir. Puis ça, c'est à la fois très difficile puis très touché. Puis des fois, je trouve qu'à certains moments, il y a un discours à deux tranchants. Tu sais, dans le fait de dire la dépression est une maladie, il faut le reconnaître, faut consulter, faut aller voir un docteur, faut prendre des médicaments, il y a un côté très déresponsabilisant auquel il faut faire très attention. Autant c'est important de chercher de l'aide, de consulter, de reconnaître que c'est un problème, autant il faut être capable d'avoir une espèce de... Puis je dis une espèce de recul, mais quand on est là-dedans, on n'a précisément pas de recul.
Non, c'est ça.
Avoir une espèce de confiance dans le fait qu'on ne se rend pas pieds et poings liés juste à des facteurs extérieurs puis indépendamment de ce qu'on peut faire. On n'est pas entièrement responsable du fait d'être malade, mais on a une responsabilité dans le fait de guérir.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet dans Le Grenier Magazine, téléchargez l'application iPad sur la App Store. Et si ça vous tente, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag GrenierMag et mon identifiant Twitter, Pizza4All. À la prochaine!